est 18h sur France Inter. Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir les amis, à demain pour de nouvelles aventures. Nous c'est parti pour le 18-20 de France Inter. Installez-vous au frais et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme à chaque fois, c'est le journal qui ouvre le bal. Et c'est vous Hélène Roussel. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
L'essentiel de ce mercredi commence avec une révolution dans les rayons des supermarchés et du coup dans nos estomacs. Nestlé rejoint le Nutri-Score, on verra ce que ça veut dire. Et sinon Hélène?
Des records absolus de chaleur et le pire est pour demain. Du côté de Valenciennes, on manque d'eau. À Paris, Lyon et Marseille, on manque d'air, pollution à l'ozone et circulation différenciée. Le Sea-Watch contre le blocus italien. 42 migrants à son bord depuis plus de deux semaines. Le navire humanitaire va accoster à Lampedusa. Enfin, c'est l'homme qui a pris la mer. Johan Richomme, vainqueur de la solitaire du Figaro.
À 18h15, un jour dans le monde. Ce soir, on se souvient des émeutes de Stonewall qui ont commencé il y a 50 ans, quasiment jour pour jour. Les émeutes ou la révolution de Stonewall d'ailleurs, parce que les combats LGBT commencent là. Qu'est-ce qu'il reste de l'esprit Stonewall aujourd'hui? C'est ce qu'on verra avec le premier invité. Nous sommes aussi en Corée du Sud avec une affaire de clonage de chiens qui, croyez-moi, fait un peu peur. Et puis 19h20, le téléphone sonne ce soir. Sciences Po chamboule tout. L'écrit au concours, c'est fini. Une presque une manière de poursuivre ce que l'école a déjà commencé avec les conventions éducation prioritaire dès 2001, miser sur l'ouverture d'esprit, la persévérance plus que l'écrit. Mais est-ce que ça veut dire diplôme au rabais alors? Et quand les autres écoles à concours vont-elles s'y mettre? Est-ce que réellement la diversité en sera changé? Dites-nous ce que vous en pensez au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et donc ça bouge dans les rayons, Hélène. Nestlé sous la pression des consommateurs.
Oui, c'est un colosse qui vient de céder. Nestlé accepte le Nutri-Score, ce code couleur du vert au rouge qui permet d'évaluer, de comparer les produits avant d'acheter et de mettre dans le caddie combien de gras, de sel ou de sucre. Daniel Messager, bonsoir.
Bonsoir.
Nestlé qui joue là la transparence, c'est un pas de géant. Hein.
Nesquik, Chocapic, Gigos, Buitoni, c'est rien moins que le premier groupe alimentaire mondial qui vient de passer dans le camp Nutri-Score. On peut parler de camp parce que pendant des années, ce géant s'est opposé au logo. Il faut dire que tous les produits transformés qu'il met sur le marché ne sont pas toujours les meilleurs en termes de qualité nutritionnelle et c'est justement ce que mesure Nutri-Score. Nestlé ne voulait pas courir le risque que les consommateurs se détournent complètement. Il avait même lancé un étiquetage parallèle pour contrer Nutri-Score en indiquant par portions, les quantités de gras, sel et sucre, sauf que c'est l'industriel lui-même qui déterminait quelle était la bonne portion, juge et partie, jamais mal notée. Alors ce changement radical, ce sont les consommateurs qui ont fini par l'imposer. Plus de la moitié juge l'information nutritionnelle objective, importante dans leur choix. C'est aussi le politique, car le Premier ministre, dans son discours de politique générale, avait souhaité rendre le Nutri-Score obligatoire. Continuer à refuser la transparence était contre-productif. En l'affichant, Nestlé redore son image et pourra aussi améliorer sa fabrication, ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire. Le calendrier n'est pas encore connu, mais c'est une cinquantaine de marques du groupe qui pourraient se voir bientôt apposer le logo Nutri-Score.
Daniel Messager, merci à vous. Au rayon consommateur, UFC Que Choisir lance une action collective contre Google, accusé de violer le règlement européen sur la protection des données personnelles. Sous le soleil, exactement, 13 départements de plus sur la carte, 78 départements au total en vigilance orange à la canicule, une bonne partie de la France prend le bouillon, 41 degrés à Clermont-Ferrand en ce moment, 38 à Brive ou à Luchon en Haute-Garonne, quelques records absolus encore aujourd'hui, mais il fait chaque jour un peu plus chaud et le pire est à venir, on le sait. Alors un peu partout, on cherche la solution pour tenir le coup, prendre des forces et un peu de frais, comme dans cette salle climatisée de la mairie du 9e arrondissement de Paris, transformée en refuge pour l'occasion. Reportage Marius Delaunay.
Le climatiseur fonctionne à plein régime, température à l'intérieur de la salle, 21 degrés, et ça fait du bien.
C'est le paradis, c'est où là? C'est bien ça.
Assis sur un fauteuil, Biri en profite, il est retraité et il ne supporte plus cette chaleur qui lui donne même des vertiges.
Je ne tiens pas debout, j'ai trop chaud.
Biri habite dans le 9e arrondissement, à côté de la mairie. La salle climatisée, c'est un vrai refuge en journée. Il ne peut plus rester cloîtré chez lui.
Ah ben, c'est un four à l'intérieur, c'est pas possible. Le soleil entre jusqu'à 21h. J'ai pas d'air, tout le soleil entre.
Des bouteilles d'eau sont mises à disposition dans la salle, mais aussi des livres et quelques jeux pour s'occuper, sans oublier les sanitaires. Alors oui, il y a beaucoup de retraités, mais pas seulement pour une agente de la mairie.
C'est tout type de personnes de toute façon. Hein. Vous avez aussi bien celles qui viennent, qui passent en mairie lors de déjeuner, donc ils vont venir un petit peu plus tôt pour profiter de la fraîcheur. Puis vous avez des personnes retraitées ou d'autres qui sont en activité, mais sachant qu'il y a une salle, ils passent un petit moment ici.
La salle climatique climatisée sera exceptionnellement ouverte ce week-end pendant la canicule. Elle le restera aussi en semaine jusqu'à la fin de l'été.
Demain sera, dit-on, le jour le plus chaud avec des nuits étouffantes jusqu'à 25 degrés dans les grandes villes. Quelques écoles ferment au cas par cas, mais souvent le message c'est plutôt de garder les enfants à la maison si on peut. Et dans cette fournaise, l'eau c'est de l'or. Quand plus rien ne sort du robinet, il y a de quoi s'inquiéter. Autour de Valenciennes, depuis lundi, les habitants vivent au rythme des coupures d'eau ou des baisses de pression le soir. Il faut dire qu'en deux jours, la consommation a explosé de 30%. Raffaella Birivicente de France Bleu Nord s'est rendue chez Suez, qui a ouvert une cellule de crise dans son centre à Anzin.
Par exemple, ici, au lieu d'avoir une réserve à 80%, on va être plus à 60%.
24 heures sur 24, une vingtaine de salariés se relaient pour suivre l'évolution des niveaux dans les 14 châteaux d'eau qui alimentent les 200 000 habitants du secteur. Si la situation s'est stabilisée ces dernières heures, c'est du jamais vu. La faute à plusieurs facteurs, explique Laurent Valeroy, directeur adjoint Grand Hainaut chez Suez.
Ça fait la troisième année qu'on est en manque de pluviométrie sur une période hivernale et donc une capacité de production moindre. Le deuxième phénomène, c'est que les canicules, on en a déjà eu, mais qui arrivent juillet-août, là où les besoins en eau sont moindres. C'est-à-dire que les gens sont partis en vacances, les écoles sont fermées, certaines entreprises aussi ont besoin moins d'eau.
Autre facteur aggravant, ce qu'on appelle le street pooling, l'ouverture de poteaux d'incendie pour profiter de l'eau, plus d'une vingtaine depuis le début de la semaine.
Plus de 1000 mètres cubes par jour de volume perdu, ça correspond à une demi-piscine olympique. Alors qu'on sait qu'il nous manque à peu près entre 2 et 3 000 mètres cubes par jour pour assurer la production.
Suez multiplie les textos et appels pour demander aux entreprises, collectivités et usagers de limiter leur consommation. Une dizaine de salariés s'est même déplacée à Vieux-Condé pour rappeler l'arrêté préfectoral qui interdit notamment l'arrosage des pelouses entre 9h et 19h. Suez a aussi interrompu sa revente d'eau à Noréade. Autant de mesures pour tenter de revenir rapidement à la normale.
À propos des bouches à incendie, c'est toujours strictement interdit de les ouvrir. Un agent de la mairie d'Orly hier soir a été agressé par une vingtaine de jeunes alors qu'il essayait justement d'en refermer une. Après l'eau, va-t-on manquer d'air ? Le cocktail chimique, classique, soleil plus chaleur égale pollution à l'ozone. Circulation différenciée à Paris, Lyon, Annecy depuis aujourd'hui, Strasbourg et pour la première fois Marseille demain. C'est donc dans ce contexte suffocant que le Haut Conseil pour le Climat, instance mise en place par Emmanuel Macron lui-même, a rendu son premier rapport. Et c'est au vitriol pour le gouvernement. À ce rythme, c'est simple, la France n'a aucune chance d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Les moyens sont insuffisants. Ce qui n'empêche pas le président de la République d'afficher une ligne rouge dans ses ambitions verte. À son arrivée au Japon avant le G20 ce matin, Emmanuel Macron a annoncé que la France ne signerait pas la déclaration du sommet s'il n'y avait pas la volonté de défendre une ambition climatique. Et la réforme des retraites, elle aura-t-elle lieu ? Les Échos ce matin évoquaient une réforme repoussée, sans doute après les municipales l'année prochaine. Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, bûche le sujet depuis un an et demi. Alors réforme, il y aura oui. Ses conclusions aussi pour le 14 juillet et pour le calendrier, peu importe.
Moi, j'ai aucun souci, ce calendrier ne m'appartient pas. Le mien, qui m'appartient, c'est de remettre mes recommandations début juillet. Et donc, nous sommes prêts. Nos analyses juridiques sont prêtes. Nos documents sont prêts. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus.
Si repoussé, c'est grave ?
Pas du tout. Sur un projet qui va concerner les 50 prochaines années, un mois, deux mois près, je connais votre impatience légendaire, mais c'est aussi intéressant de pouvoir... Si ce délai... Moi, vous savez, j'ai toujours accepté les allongements comme un moyen pour moi de pouvoir approfondir les discussions, de pouvoir aller sur le terrain, rencontrer les citoyens, etc. Donc, moi, tout ce qui nourrit le projet, un mois, deux mois de plus, n'est pas un souci. Ah, si le projet est enterré, que les gens qui veulent l'enterrer l'assument. Mais en tout cas, je connais la volonté du président, je connais le souci du Premier ministre de soutenir les projets du président, et donc j'ai aucun doute là-dessus.
Voilà, donc Jean-Paul Delevoye avec Manuel Ruffez. On s'y attendait, Agnès Thil a été exclue de La République En Marche. La commission des conflits du parti a tranché aujourd'hui. Exclusion qui fait suite à ses propos polémiques et décrit comme pernicieux, pour ne pas dire homophobe, à propos de l'ouverture de la PMA. Propos jugés préjudiciables donc par La République En Marche, alors que les débats n'ont même pas encore commencé à l'Assemblée. Et puis en bref, encore deux mois après l'incendie de Notre-Dame, les conclusions de l'enquête préliminaire aujourd'hui. Le parquet écarte la piste criminelle, mais ouvre une information judiciaire pour dégradation involontaire, un dysfonctionnement du système électrique ou alors une cigarette mal éteinte. Plusieurs hypothèses sont toujours sur la table.
Il est 18h presque 10 sur France Inter. Le patron de l'antiterrorisme dans les Ardennes est en prison ce soir.
Commandant de la DGSI numéro 1 dans le département de la sécurité intérieure, ce policier haut gradé a été mis en examen pour viol et détention d'images pédopornographiques. En avril dernier, une jeune femme dépose plainte contre lui à Reims. Elle l'accuse de l'avoir violée et agressée alors qu'elle n'avait que 17 ans. 7 ans. À partir de là, les enquêteurs vont retrouver sur son ordinateur et ses téléphones des milliers d'images pédopornographiques. Mathieu Bourrette est le procureur de Reims.
L'intéressé reconnaît une proximité avec cette jeune fille, dit qu'il en était amoureux, reconnaît des caresses et des attouchements, nie tout acte de pénétration et soutient que la relation était consentie. L'enquête a mis à jour deux éléments, des échanges de messages entre cette jeune fille et ce commandant de police où elle lui parle de viol et il s'excuse et il dit être désolé de son comportement sans avoir pu d'ailleurs nous donner d'éléments cohérents. Et puis par ailleurs, nous avons effectivement exploité ses ordinateurs, ses téléphones personnels et professionnels dans lesquels nous avons pu constater qu'il y avait eu des téléchargements de plusieurs milliers, voire peut-être dizaines de milliers d'images pédopornographiques et également des consultations habituelles de sites explicites et pédopornographiques dont on a également pu établir qu'il y avait eu des effacements quelques jours avant la remise de ces ordinateurs et de ces téléphones portables.
Le procureur de Reims avec Éric Normand de France Bleu Champagne. Le commandant lui risque jusqu'à 20 ans de prison. Les enquêteurs craignent qu'il y ait d'autres victimes mineures. Et puis en bref, encore un jeune homme de 17 ans blessé au cou avec une paire de ciseaux pendant son interpellation. C'était samedi dernier en Seine-Saint-Denis. La police des polices vient d'être saisie. Le Sea-Watch va forcer le blocus des eaux italiennes. Le bateau humanitaire, avec 42 migrants à son bord, navigue au large des côtes libyennes depuis le 12 juin, donc deux semaines. Le gouvernement italien refuse de l'accueillir. L'Europe fait silence radio. Ça suffit, dit aujourd'hui l'ONG. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Hélène.
Le bateau va donc essayer d'accoster sur l'île de Lampedusa.
Et oui, même si la capitaine du bateau et l'ONG Sea-Watch risquent gros poursuites judiciaires pour aide à l'immigration clandestine, jusqu'à 50 000 euros d'amende et la mise sous séquestre du navire. Forcer le blocus était pourtant une absolue nécessité, affirme la porte-parole de l'ONG en France, Marie Faggianelli.
C'est des personnes qui fuient l'enfer libyen, qui sont dans un état psychologique extrêmement fragile, qui ont subi des tortures et des viols et qui psychologiquement sont au bout. Et là, il faut absolument qu'ils arrivent dans un port sûr.
Alors, vu la réaction du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, le bateau devrait être rapidement arraisonné. Furieux, l'homme fort de l'extrême droite italienne est toujours aussi prompt à mettre en scène sa colère.
Nous ferons usage de tous les moyens légaux permis pour bloquer cette insulte. Les lois d'un État se respectent. Nous avons déjà donné, nous avons déjà payé, nous avons déjà accueilli. Les frontières d'un pays sont sacrées, ok ?
Nouvel épisode donc du bras de fer entre l'homme fort du gouvernement italien et l'ONG Sea-Watch. Mais au-delà, c'est l'Europe qui est visée et des deux côtés. L'Europe incapable de sauver des vies humaines, selon l'ONG, qui a saisi sans succès la Cour européenne des droits de l'homme. Mais l'Europe incapable aussi d'aider l'Italie, accuse Matteo Salvini.
Louise Baudet. Il a un bazooka dans la bouche. Donald Trump, interview téléphonique à une chaîne américaine avant de partir pour le G20 au Japon. Le président américain accuse l'Allemagne d'être un partenaire défaillant et le Vietnam maintenant d'être pire que la Chine en matière d'échanges commerciaux. Au Kenya, le tribunal de l'environnement bloque un projet de centrale au charbon sur l'archipel de Lamu, site paradisiaque inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le juge a annulé ce projet de 2 milliards d'euros financé par la Chine, exige une étude d'impact sur l'environnement. Allez, on prend le large et un peu d'air frais pour terminer. La course à la voile, la solitaire du Figaro. Les premiers sont arrivés à Dieppe tout à l'heure, dernière étape. Johan Richom remporte la course. Il a encore du mal à y croire.
Énorme, quoi. Énorme. Je suis hyper ému et à la fois, je ne sais même pas trop quoi dire parce que je pense que jamais j'avais rêvé d'en gagner deux et là c'est fait et j'ai envie de dire pas n'importe quelle édition en plus quoi, donc c'est génial. L'histoire elle est magnifique, j'espère qu'elle continuera du coup. C'est sensationnel, il y a deux mois je me demandais encore comment j'allais la faire et il y a six mois je savais pas trop ce que j'allais faire après la route du Rhum et là en fait en sept mois j'enchaîne deux super victoires et c'est fantastique quoi. C'est un beau travail d'équipe avec tous ceux qui m'ont entouré là et je suis vraiment content pour tout le monde. C'est une épreuve super dure et il faut que ça le reste. Je pense que si on ne s'arrache pas pour la gagner, ça ne sera pas pareil. Et là, c'était vraiment une belle édition qu'il nous a offert.
Et Johan Richom, vainqueur ce matin de la solitaire du Figaro, il répondait à Jérôme Val et il nous envoyait un petit peu d'air frais bien salé.
Allez, ça on en a besoin. Hélène Roussel, merci beaucoup pour le journal. Vous revenez dans Un jour dans le monde dans un instant, Hélène.
Et oui, on va parler de ces mines de charbon. Tiens, en Afrique du Sud, une pollution mortelle et pour la première fois des ONG portent plainte. Et puis, connaissez-vous le Memphis Jukin?
Pas du tout.
C'est une danse et je ne vous dis que ça.
Et on verra ça tout à l'heure autour de 18h37 ce soir. On se penche sur ce qu'il reste des émeutes de Stonewall qui ont forgé les luttes LGBT. Les émeutes, c'était il y a 50 ans, quasiment jour pour jour. Nous sommes en Corée avec des chiens clonés ce soir. Et puis 19h20, le téléphone sonne. Allez-y, le standard est ouvert. Tiens, ça passe à l'oral comme nous, au téléphone sonne. Comme à Sciences Po, donc très bientôt, Sciences Po qui bouleverse et chamboule son concours, dans la lignée de son histoire d'ailleurs. Est-ce que c'est ça la solution pour une meilleure diversité, misée plus sur l'oral que sur une épreuve de concours écrite? Ça pour une vraie diversité d'ailleurs. Est-ce que c'est la solution pour former différemment, pour sortir de la pure méritocratie, comme on aime à le dire chez nous? Racontez-nous ce que vous en pensez. 01 45 24 7000.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et Sébastien Léas, on est toujours en vigilance orange à la canicule.
Oui, Météo France a étendu la vigilance orange vers les départements méditerranéens, mais aussi un peu plus vers l'ouest. Maintenant, ce sont 78 départements qui sont placés en vigilance orange. Cette vague de chaleur est exceptionnelle à plus d'un titre, puisque tout événement confondu, jamais autant de départements n'avaient été placés en vigilance orange en même temps. Évidemment, des records de chaleur ont encore été battus cet après-midi, comme à Luchon, à Issoire, Besançon, Pontarlier, Nancy, Épinal ou encore Nevers, liste évidemment non exhaustive. Parmi les records, on peut citer les 40,9 degrés de Clermont-Ferrand, fait il y a un peu moins d'une heure, battant son ancien record mensuel datant lui du mois de juin 2011 de plus de 3 degrés, mais surtout qui bat son record historique absolu, tout mois confondu, qui lui date du 31 juillet 1983. Cette station est ouverte depuis près de 100 ans.
Allez, demain, encore du soleil donc, et encore de la chaleur.
Il va faire chaud et même très chaud avec le soleil qui va encore gagner du terrain, même si quelques grisailles matinales retarderont l'arrivée du ciel bleu vers les Landes et les Côtes d'Armor ainsi que le Nord Finistère. Les très fortes chaleurs vont encore gagner du terrain. Il fera 37 à 41, voire 42 ou même 43 degrés entre les Pyrénées, les bords de la Loire, jusqu'en Bourgogne, aux Préalpes et à la Provence. 34 à 38 degrés en Corse, sur les plages du Languedoc-Roussillon et entre la Bretagne, la Champagne, le Jura et l'Alsace. Et puis 30 à 35 degrés entre les Ardennes et l'Île-de-France. Pour avoir moins de 30 degrés, il faudra être sur les côtes nord de la Bretagne et entre la Basse-Normandie et le Nord-Pas-de-Calais.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup Sébastien et à tout à l'heure après 19h.